Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour! Y'a du partout dans la tour! Y'a du partout dans la tour! Café les mecs, ça va saigner! Pas de commencé à l'aile gauche de la tour! Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Qui est vraiment super bon aussi dans cette évasion, c'est que dans la douceur, quoi, du velours, comme on disait, tu vois, vraiment
propre,
hyper propre, pas un coup, pas un blessé, pas un otage. Le pilote d'hélicoptère, il est venu chouiner, mais enfin, s'il a pris une gifle, c'est bien le maximum, c'est qu'il y a l'affaire. Et sur un truc comme ça, vraiment, vraiment tranquille. Et ça veut dire une chose. Alors après, ils ont beau dire oui, c'est des histoires de grand banditisme, etc. Forcément, c'est des mecs surarmés. Ils n'étaient pas surarmés. Ils avaient deux Kalachnikov. C'est pas surarmé, c'est faux.
Des fumigènes, je crois.
Des fumigènes, voilà. Et des meuleuses sur pile. Alors, effectivement, ils avaient pris le temps de savoir qu'il y avait un chemin qui menait plus simple, qui menait directement au parloir. Parce que c'est sûr que si tu rentres dans les parloirs par le chemin normal des familles, là, c'est pas deux grilles que tu as. Là, c'est 15 grilles avec des ronds-points, enfin, etc. Et là, c'est sûr qu'avec deux meuleuses, tu vas pas loin. Là, il faut des explosifs. Mais là, ils savaient ça. Bon. Voilà, je sais pas comment, mais en tout cas c'est ça va être voilà. Et puis avoir repéré un hélicoptère un petit peu décidé et les choses sont possibles. Et c'est ça qui est important. Non mais c'est ça qui est important à retenir.
Salut, voilà, on est toujours à l'écoute de l'envolée. Alors là, on va faire un petit tour aux États-Unis avec Gwenola Ricordo, qui est professeure et camarade qui est là-bas actuellement et qui travaille beaucoup sur les prisons et ce qui se passe là-bas. Les États-Unis, c'est 2,3 millions de prisonniers et de prisonnières. C'est plus de 6 000 lieux d'enfermement. Bref, c'est le pays où il y a le plus de prisonniers et de prisonnières au monde. Ça, c'est quand même... Enfin, il faut commencer par ça. Et peut-être une première question, Gwenola. Qu'est-ce qui se passe en mars avec les parloirs, le confinement? Comment ça a commencé aux États-Unis?
Alors, la chronologie de l'épidémie, elle est en parallèle avec celle de la France, avec un retard d'une à deux semaines. C'est-à-dire que toutes les questions qui se sont posées en France, on les a souvent vues arriver aux États-Unis avec ce petit retard. Mais on peut dire que dès début mars, il y a eu de plus en plus d'inquiétudes, à la fois dans les prisons et puis parmi les proches de prisonniers et de prisonnières, avec d'abord le constat que dans beaucoup d'endroits, les prisonniers avaient non seulement pas le droit d'avoir accès au gel hydroalcoolique, comme dans beaucoup de prisons, hein, c'est pas spécifique aux États-Unis, hein, mais c'est souvent considéré comme des objets de contrebande. Évidemment, l'interdiction d'être masqué. Et puis, pour beaucoup de prisonniers, l'obligation d'avoir à acheter du savon, ce qui parfois représente en fait une dépense importante vu que le travail en prison est quasiment pas payé. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes d'abord parmi les proches, hein, qui se retrouvaient à apporter du savon prisonnier, à faire des collectes pour pouvoir envoyer aux prisonniers de quoi s'acheter du savon. Et puis les premiers cas en sont apparus autour du 20 mars, avec des retards, hein, comme dans beaucoup d'autres pays et secteurs de la population, des retards dans la mise en place des tests. Et donc aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement contrastée selon les États, parce que l'état de l'épidémie n'est pas la même dans tous les États, et puis contrastée selon les prisons.
Et ça donne quoi comme mesure? Est-ce qu'il y a par exemple l'État fédéral ou les différents États ont décidé de vider une partie des prisons, de libérer des gens? Comment ça s'est joué cette histoire?
Alors c'est vrai que dès le début, que l'inquiétude a commencé à être réelle aux États-Unis, il y a eu des appels à la fois du côté des organisations qui en faveur des droits des prisonniers et puis je dirais plus largement des milieux progressistes, de la même manière qu'il y a eu en France et dans d'autres pays des appels à la libération de prisonniers. Alors avec des expressions politiques extrêmement variées, hein, des expressions politiques relativement modérées qui appelaient à la libération des prisonniers non violents par exemple, et puis des appels beaucoup plus radicaux à la libération de tous les prisonniers. Alors après, ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle des États-Unis, c'est qu'on parle à propos du système judiciaire et du système carcéral, en fait de systèmes au pluriel qui sont extrêmement complexes, puisqu'il y a à la fois les prisons fédérales, donc qui dépendent de l'État des États-Unis, hein, donc au niveau fédéral, et puis il y a des prisons d'État, donc qui dépendent de chacun des États, et puis il y a des maisons d'arrêt qui, là, dépendent des comtés. Et donc... on a autant de situations qu'il y a donc de types de prisons et qu'il y a d'autorités judiciaires. Au final, on a encore une fois des situations qui sont extrêmement contrastées. C'est-à-dire qu'on a dans certains États, par exemple dans l'État de Washington ou l'État de l'Oregon, des maisons d'arrêt qui ont divisé par deux le nombre de personnes incarcérées. Et puis, il y a des endroits où c'est des mesures qui sont totalement cosmétiques, hein, avec simplement quelques dizaines de prisonniers qui ont été libérés. Et puis, de la même manière, lorsqu'on regarde les flux entrants, hein, comme on peut dire, hein, qui rentrent en prison, ben, de la même manière, hein, on va voir des États ou des comtés où des mesures ont été prises pour limiter le nombre de prisonniers, de nouveaux prisonniers, avec des fois certains types de délits qui ne sont plus poursuivis. Et puis, à l'inverse, des endroits où on a toujours un nombre conséquent de personnes qui rentrent dans le système. À cela, il faut ajouter que lorsqu'on parle des libérations et des mesures de libération collective, il faut voir que ça recouvre des situations qui peuvent être assez diverses et donc il ne faut pas forcément se réjouir. Hein. Ce n'est pas forcément des grâces collectives ou des amnisties collectives. Il peut s'agir de mesures de placement sous bracelet électronique et donc d'un élargissement du nombre de personnes qui sont placées sous bracelet électronique. Il peut s'agir d'un accès plus grand aux mesures de libération sous caution, Donc ça veut dire que les personnes sont dehors, mais ont dû bien déposer une caution. Et puis, je me permets d'ajouter, parce que c'est un vrai problème aux États-Unis, que les sorties sèches qui ont été décidées dans ce mouvement de libération collective ont parfois des effets pervers extrêmement graves, puisque pour certaines personnes, elles sont davantage en prison protégée, elles ont davantage d'accès aux soins et elles se sont retrouvées à être libérées sans avoir accès à un logement, à un travail, à des ressources, etc. Et donc se retrouvent extrêmement précarisées aujourd'hui.
Et du coup, je me permets de rebondir là-dessus sur l'accès aux soins, parce que si j'ai bien compris, il y a un truc qui a changé aussi en prison par rapport à ça, qui est qu'avant, il fallait payer pour avoir accès aux soins et apparemment, depuis la crise Covid-19, ça a changé.
Oui, la plupart des États, à l'exception de 3, ont mis fin à ce système, hein, donc les prisonniers avaient à s'acquitter d'un ticket modérateur. Hein. Donc le système du ticket modérateur, c'est tel qu'on le connaît en France pour un certain nombre d'assurés. C'est-à-dire que, par exemple, hein, lorsque vous êtes en prison et que vous allez voir le médecin généraliste, vous devez payer quelques dollars. Et donc, ce ticket modérateur, il existait pour tous les soins. Et donc, la plupart des États ont mis fin à cela dans le contexte du Covid-19. Et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas sûr que tous les prisonniers, enfin, toutes les personnes qui sortent de prison aient un meilleur accès aux soins et ou au dépistage lorsqu'elles sont dehors.
Oui, alors qu'elles sortent peut-être malades, quoi. Et du coup, j'avais une question concernant le confinement, parce que apparemment aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France, du coup, parce que confinement ici a voulu dire fin des parloirs. Comment ça se passe du coup aux États-Unis ?
Oui, alors aux États-Unis, la mesure a été prise en l'espace de quelques jours, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États et des prisons locales. Donc effectivement, fin des parloirs. Avec aussi, un petit peu comme il s'est passé en France, des mesures pour permettre davantage d'accès aux vidéoconférences et aux appels téléphoniques. Alors, il n'y a pas la vidéoconférence en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Mais ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que dans le contexte états-unien, il s'agit d'un énorme marché avec des acteurs privés très importants comme JP, qui ont fait un certain nombre d'offres commerciales, hein, donnant des bons, par exemple, de 10 minutes, 20 minutes à leurs clients, c'est-à-dire aux personnes qui sont à l'extérieur. Et puis des États aussi qui ont pu donner des minutes gratuites pour les prisonniers et pour leurs proches. Par contre, si on parle du confinement et de la prison, aussi une particularité américaine, c'est ce qu'on appelle les lockdowns, qui correspondraient à ce qu'on appellerait en France un confinement. Alors le mot confinement aujourd'hui a un petit peu perdu le sens spécifique qu'il avait auparavant, mais c'est une mesure qui est largement employée dans le système états-unien, qui est de placer tout un quartier ou toute une prison. Alors, ce qui pourrait ressembler à un régime porte fermée, mais sauf qu'il est beaucoup plus strict et il dure parfois des semaines, voire des mois. Et donc, c'est un régime d'isolement strict qui est imposé à une population qui n'a pas été placée sous le régime de l'isolement. Et donc, une des premières conséquences des politiques de prévention du coronavirus en prison, ça a été le recours de beaucoup d'établissements à ces mesures-là qui sont évidemment extrêmement restrictives en termes de liberté pour les personnes qui sont détenues.
Et face à tout ça, comment réagissent les prisonnières et les prisonniers ?
Alors, il y a eu beaucoup de formes de révolte, de protestation, même si le contexte actuel rend un petit peu difficile d'en connaître l'étendue, parce que, notamment dans les établissements où il y a ces mesures de lockdown, l'accès aux moyens de communication peut être extrêmement réduit. Il y a eu déjà des prisonniers qui ont été poursuivis pour avoir fait sortir des informations. Toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de cas qui sont rapportés de refus des plateaux, de refus de remonter des promenades collectives, de mini-émeutes. On peut dire que c'est assez réparti dans l'ensemble du territoire. Hein, il y a des sites militants qui font des cartographies assez précises de cela. Par contre, ce n'est pas des mouvements de grande ampleur, dans le sens que c'est souvent très circonscrit, hein, ça dure maximum une journée. En termes de mobilisation, il faut quand même dire que l'essentiel des mobilisations sont aujourd'hui à l'extérieur, avec des mobilisations qui circulent beaucoup à travers les réseaux sociaux, et puis des manifestations à l'extérieur, des prisons, des institutions de décision, des manifestations qui ont lieu en voiture avec ce mot d'ordre, hein, « release them all », donc « libérez-les tous ». Mais en termes voilà, de paroles collectives et de mouvements collectifs, hein, il n'y a pas eu de coordination de mouvements de prisonniers, il n'y a pas eu de plateforme élaborée. Et ce qui est assez marquant, puisque ces dernières années, aux États-Unis, il y a eu deux grandes grèves coordonnées, hein, de prisonniers qui ont engagé des dizaines de milliers de prisonniers. Donc, il n'y a pas une mobilisation à la hauteur de ces grèves collectives qui ont été engagées ces dernières années.
Mais est-ce que ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a plein de personnes qui sont malades et qu'en fait, enfin, je ne sais pas si c'est possible de faire un peu des généralités, parce que j'imagine que c'est très différent selon les États, etc. Mais moi, j'ai lu qu'il y avait des endroits où il y avait des taux d'infection de plus de 80% dans certaines prisons. Il y a peut-être aussi beaucoup d'inquiétudes et de personnes malades, en fait, qui peuvent pas forcément avoir les moyens de se mobiliser ou de se révolter.
C'est une hypothèse. C'est vrai que il y a quelques établissements, hein, donc c'est en fait dans les États où il y a eu des tests menés de façon assez systématique, hein, notamment l'Ohio, le Tennessee, l'Indiana, etc., où effectivement il y a des établissements qui rapportent des taux de contamination supérieurs à 70%, parfois même au-delà de 90%. Alors après, à l'échelle de l'ensemble des personnes qui sont incarcérées, pour l'instant, on estime qu'il y a 10 000 cas de personnes qui sont malades. Après, expliquer l'absence de mobilisation, c'est vrai que ça fait entrer en jeu beaucoup de facteurs. Un des facteurs étant aussi les moyens de relayer des formes de mobilisation à l'extérieur. Mais il y a aussi, à mon sens, la question des libérations et comment, en fait, on sait que ces mesures-là, lorsque ce ne sont pas des mesures qui sont prises collectivement, donc avec le mot d'ordre d'amnistie générale, ça entraîne aussi des comportements individuels, d'espérer individuellement d'obtenir une libération individuelle plutôt que de construire des mobilisations collectives. Et on sait bien que c'était aussi ça qu'avaient en tête les administrations pénitentiaires et les gouvernements lorsqu'ils ont mis fin à des mesures collectives de grâce. Ça permet de diviser pour mieux régner, pour dire les choses un petit peu rapidement. Et donc, je pense que ce contexte de libération au compte-goutte et d'espérer avoir des libérations joue aussi contre les mobilisations collectives. Alors, pour en revenir à ce que tu évoquais aussi, la peur de la maladie et le fait que certains détenus sont malades, deux choses. D'abord, pour l'instant, il y aurait 61 prisonniers qui sont décédés. On parle de 4000 surveillants qui sont malades, donc ça veut dire aussi un potentiel de contamination dans les jours et dans les semaines à venir. Et puis aussi, quelque chose qui est très important pour comprendre qui est en prison aujourd'hui aux États-Unis, c'est que les prisonniers âgés sont beaucoup plus représentés qu'ils ne sont dans les prisons occidentales. C'est-à-dire, il y a, dans pas mal d'États, on peut avoir une moyenne d'âge des personnes qui sont détenues qui est au-delà de 45 ans, alors que traditionnellement, hein, c'est ce qu'on connaissait beaucoup dans les prisons occidentales, les gens qui étaient en prison étaient essentiellement des hommes jeunes. Et donc, c'est une population qui a souvent des facteurs de comorbidité et qui forcément a des raisons d'être inquiète dans le contexte de l'épidémie. Et ce qui est d'ailleurs extrêmement important de garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, les argumentations autour des libérations de prisonniers, elles se font, si ce n'est autant sur la nécessité de protéger les prisonniers et qu'une peine de prison ne doit pas se transformer en une peine de mort, mais également au nom des risques que ferait encourir le fait d'avoir des foyers épidémiques dans les prisons et donc de contaminer le reste de la population.
Mais c'est toujours ce même propos un peu ordurier. De toute façon, on considère toujours les prisonniers comme vecteurs des pires maladies. Enfin, c'est le lit de l'humanité. Du coup, c'est eux qui sont vecteurs des virus. Enfin, là, et on ne peut pas les relâcher pour ça. Ça, c'est quand même... les prisons seraient des clusters dont il faudrait se protéger. C'est un peu ce que tu dis. Enfin...
Oui, alors d'ailleurs, c'est ce que la Chine a mis en place, des périodes de quarantaine pour les prisonniers sortants. Donc c'est effectivement quelque chose à surveiller prochainement. D'autant, et du coup j'y reviens, que ces sorties, ces libérations sans ressources pour les personnes qui sortent font qu'elles n'ont parfois aucun endroit où aller et aucun endroit pour prendre des mesures d'autoconfinement.
Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont évadés.
Alors... Bon, l'évasion qu'il y a eu dans l'État de Washington, c'est 9 prisonniers. Il y a eu aussi quelques femmes qui se sont évadées d'un centre de travail communautaire. Donc, c'est une forme de prison. Bon, je pense que ça ressemble plutôt à des évasions d'opportunités dans un contexte où, effectivement, la liberté est d'autant plus désirable que la prison risque d'être un lieu de contamination. Après, bon, voilà, la vie de fugitif aux États-Unis, c'est pas une vie simple.
Nulle part, je crois, mais ouais.
est-ce que tu veux dire un dernier mot?
Juste un petit quelque chose, parce que lorsqu'on parle de l'épidémie, des personnes qui sont malades, des personnes qui décèdent en prison, on parle de nombres, mais il y a évidemment des histoires derrière ces nombres. Ces derniers jours, on a appris le décès de deux femmes. Ce sont les deux premières femmes à notre connaissance qui sont mortes du coronavirus dans les prisons américaines. Il s'agit de Suzanne Farrell, qui avait 74 ans, qui était en prison depuis très longtemps pour s'être défendue dans un contexte de violence conjugale. Il s'agit aussi de Darlene Lulu Benson-Sisi, qui était en prison dans l'État de New York, aussi prisonnière suite à un contexte de violence conjugale. C'est important de rappeler la situation des femmes. Et aux États-Unis, dans une moindre mesure en France, mais beaucoup de femmes qui sont en prison le sont parce qu'elles ont été victimes de violences conjugales, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on ne pourra pas abolir les prisons sans le mener avec les luttes féministes.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Merci Gwenola. Et puis force, courage et détermination. Tu peux passer le message à tous les prisonnières et les prisonniers américains. Et puis voilà. Hein.
Ben, force et détermination aux prisonniers, prisonnières, aux proches, aux amoureuses, aux papas, aux mamans, aux sœurs, aux frères, aux cousins, aux potes. Soyez solidaires.